Ce podcast est présenté par Mise au jeu.
Mise au jeu. Gages-tu ?
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Oh. Est-ce qu'on est bien là? Là, les gens, non, on est live, Newton.
We are live.
We are live. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du podcast du KNFC Couscous Piri-Piri, l'édition la plus multiethnique, la plus soccéristique de la planète foot. Sofiane avec vous en direct sur Periscope. Et ceux qui nous écoutent comme d'habitude sur nos podcasts, c'est bienvenue au CAN Football Club Plus, la seule plateforme soccer podcast au Québec, au Canada, je pense. Disons qu'on se met dans le top 5 du Canada, s'il en existe 4 autres, donc au moins on se garde un peu de lousse. Moi c'est Sofiane et avec moi comme d'habitude, Nilton George. Salut Nilton.
Hola, toi c'est sur un nuage là, c'est ta semaine.
Hein, qu'est-ce que
là, tu vois, on a fait un live, Boustan, boum, 5 minutes après 2 buts.
Et voilà. Ah, mais c'est d'abord, mais vous comprenez, c'est d'abord les 3 points et puis voilà.
Si jamais on voit l'impact de Montréal se loguer sur le Periscope, on va leur dire le message. On est disponible
pour des sessions de psychologie sportive.
Exactement, on peut donner 5 minutes contre une bouteille d'eau, 10 minutes contre une bière. On provoque des buts là.
On provoque, on est là pour ça. Donc merci d'être avec nous en direct sur Periscope. Bienvenue à tous nos abonnés en ce moment et les nouveaux qui arrivent à la plateforme podcast CAN Football Club Plus. Donc, vous pouvez les trouver sur soundcloud.com/CAN Football Club et dans toutes les plateformes de podcast que vous utilisez, mobile ou desktop. Les mots-clés sont CAN Football Club Plus. Un grand merci à la Force du Malte pour être sponsor du CCPP et du CAN FC. Belle casquette, courtoisie de Guy de la Force du Malte. Et j'ai hâte de tester aussi sa panoplie de bière qu'il nous a offert. Donc, merci encore une fois, Guy. Et bien sûr, un grand merci à tous nos patrons, à tous nos patrons sur notre, qui nous supportent via patreon.com/CAN Football Club. Merci encore d'être avec nous et tous ceux qui nous interagissent avec nous sur Twitter, que ce soit mon compte à moi ou celui de Nilton ou mon bot et aussi, le compte du CAN Football Club @CAN Foot Club sur Twitter et sur les autres plateformes Facebook, Instagram, CAN Sofiane. Football Club. Merci de me suivre, Nilton.
Es-tu le seul qui l'utilise, ce bot-là?
Je pense. Dans la hashtag NFC, je présume que oui. Donc, c'est ceux qui suivent, qui sont nouveaux pour l'histoire du bot, j'ai activé un message automatisé qui remercie tous mes nouveaux followers, les nouveaux, ceux qui m'ont jamais suivi ever, disons, qui m'ont jamais suivi de leur vie sur Twitter. Ça leur envoie un message automatisé disant merci, telle personne, @username de me suivre. Et voilà. Et ça a déchaîné.
Et les anciens,
ils ne reçoivent rien. Non, mais c'est comme votre fournisseur de cellulaire. Rogers vous aime bien, mais tant que vous n'avez pas de nouveaux clients, vous n'avez pas des rabais énormes comme nouveau qui arrive.
C'est voilà. Comme les Québécois dans l'équipe de l'Impact de Montréal. On vous aime bien, on vous paye moins.
Et voilà. En fait, non, c'est l'inverse, Newton. Les nouveaux, ils ressortent bien que les anciens, c'est pas bon, ça. Donc voilà, merci encore d'être là. Et puis, n'oubliez pas d'écouter tous les podcasts sur la ligne avec Monsieur Foot de Foot, le Poivre Vendano en mode Coupe du Monde, le Daily World Coupe du Monde avec Étienne Boutillier, le mensuel Sports Borac Rock'n'Roll et tous les autres podcasts. Évidemment, le Blaugrana podcast avec Mike Miller et Alec Avendano.
C'est incroyable, j'ai trop de nouvelles de Barça, là.
Barça, quel club magique. Donc, merci encore d'être là sur Periscope. Salut, salut sur les podcasts. Merci de nous écouter avec ces beaux microphones. Courtoisie de Jam Industries. Merci. Donc, on peut commencer l'émission Nilton maintenant. Parce que là, on est
Qu'on est live comme ça, on peut poser des questions. Si vous baissez les yeux, c'est pas parce que j'écoute une autre émission en même temps, c'est parce que je regarde vos questions. Donc, n'hésitez pas.
Moi, je regarde Netflix. Je regarde Pretty Little Liars.
OK.
Pas mal comme show, Pretty Little Liars, je vous le recommande. Donc voilà, on commence tout de suite. L'IMP, c'est votre après-match Impact de Montréal. Donc, personne ne le fait. Donc, on a essayé de le faire il y a un an et demi. Et ça marche très bien. Donc, on continue, Nilton, à force. Un peu comme Ken Kroliki par défaut, on est là.
On est les Ken Kroliki de l'après-match. On n'a pas le choix, donc on vit avec.
On vit avec. Au début, on était là par pas de choix, puis ensuite, on devient tellement bon qu'on reste là. Donc, l'Impact a battu le Rapids de Colorado 2-1 au Stade Saputo, un doublé de Safir Taylor. Safir et Dominic Badji à la 70e, qui a commencé une remontada qui ne s'est pas complétée. L'Impact est en ce moment 6e et dans les séries avec 24 points, juste devant le Fire de Chicago, 23 points, et Philadelphie, 21 points. L'Impact est à 4 points de New England, est à 6 points de Columbus, et pour vous donner une idée, est à 16 points de Atlanta United, qui est premier
dans une autre ligue. In a way.
Qui est premier avec 40 points.
Qui est en première division.
Ouais, ils sont déjà en Europa League, automatique. Donc l'Impact, grosse victoire. On va rappeler l'alignement partant avant de rentrer dans les évaluations et bien sûr dans les questions du public. Du côté de Colorado, un 3-4-3 ambitieux. Howard dans les buts, Smith, Schlossberg, Ford, Wynn, Wilson, Price et Bloomberg dans le milieu à 4, Nicholson, Mason juste derrière Bolly. Du côté de l'Impact, le 4-3 fétiche de Rémy Garde avec Bouche dans les buts. Duval, Fanny, Raital à Lovitz. Camacho a été blessé. Krolicki, Piet, Taider. Et enfin, Silva, le nouveau Silva, Mancuso et Piatti. Donc ça, c'est l'élément partant. Donc,
Toujours le même.
Donc, on va commencer tout de suite par l'évaluation du match. Les Saputo d'Or, Tropoutine et Gérardin Foin. Donc Saputo d'Or, c'est le meilleur match, c'est le meilleur joueur du match du côté de l'Impact. Tropoutine, le pire joueur du match du côté de l'Impact, d'après votre évaluation. Et évidemment, le Gérardin Foin, votre moment loufoque, WTF, marrant, quelque chose qui a attiré votre attention, que ce soit chez vous, sur le terrain, à la télé, dans le bar d'à côté, comme vous voulez, tant que c'est relié un peu au foot, et encore mieux au match, serait bonus. On ne dit pas non. Bon, Nilton, on va commencer par toi, ton Saputo d'Or, s'il te plaît.
Bon, je vais te laisser le plus évident. Tu vas pouvoir faire 30 minutes dessus. Il y a eu plusieurs bons joueurs dans ce match-là. Celui qui a eu plus d'impact sur le résultat, c'est Silva. Silva qui est à l'origine des deux buts, là, la petite passe bien tranquille. Il était calme, tu sais, comme les Anglais disent. Là, il a nice composure. Là, il a été patient pour donner le ballon juste au bon moment à Saphir. Le deuxième but, ça part de ses pieds. On voit que Silva, on l'avait peut-être jugé un peu sévèrement parce qu'on s'attendait un peu trop de lui, mais dans un rôle bien précis, il apporte beaucoup d'énergie sur le terrain. Oui, il va avoir son lot de déchets là, à l'attaque, là, on s'entend. Là. On voit qu'une fois qu'il y a le ballon, il lui faut un peu la situation parfaite. Là, mais la journée où on va avoir un avant-centre, c'est 10 centres dans la surface, il va en avoir un ou deux qui va bien connecter. Il fait partie de l'élément de solution dans un moyen terme. Là. Le club va avancer avec lui. Ça ne sera pas la pièce maîtresse là, du puzzle de Rémy Garde, mais c'est un joueur plus qu'honnête.
C'est un joueur qui te rend fier d'avoir dans ton top 14, dans ton alignement. Et je pense que c'est un titulaire à l'Impact, pas le choix, mais surtout parce que je trouve qu'il est assez bon, Nilton. Je pense qu'on était plus dur avec Camacho que Silva. Silva, on était frustrés par ses performances bizarres, malgré les qualités qu'on savait qu'il avait en théorie, qu'on avait vues. C'est jouer en division Argentine comme le titulaire, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc on s'est dit, on sait qu'il s'est sacrifié pour être le troisième milieu de terrain avant que Krolicki reprenne cette place-là. Donc
à ce moment-là, il est très polyvalent, il peut te donner un travail honnête ailleurs qu'à l'ailier droit.
C'est ça, mais je trouve qu'en tant qu'ailier droit, on voit clairement sa valeur ajoutée dans le 4-3-3, dans le 3 du haut, il est beaucoup plus important. Et je suis d'accord avec toi, pour Saputo d'Or, il est excellent. Et dans ce match-là, c'est un cœur celui de Kansas City, même si Orlando et Orlando ou Colorado c'est des équipes assez faibles. On a plus de, même dans le jeu, on est capable de trouver beaucoup plus de Saputo d'Or que l'inverse. Pendant des matchs, on trouvait pas de Saputo d'Or. On se dit, c'est Bush. Pendant les matchs, c'était Bush, au fait. Après Stéphanie. Après, c'était Bush. Et après Stéphanie. Donc ça fait plaisir de voir ça. Du côté de mon Saputo d'Or, c'est clairement Saphir Taider. Sylvain, c'est un bon choix. On fait différent, Nilton. Safi Tader, il a fait son match, vraiment, même en termes d'enjeu, il a joué mieux que ça dans d'autres matchs, je trouve, dans son jeu.
Oui.
Mais il a fait des meilleurs matchs dans le jeu pour influencer le jeu de l'Impact, mais quand Colorado n'avait pas besoin d'être aussi fringant que ça. Puis au fait, le fait que Colorado bétonnait tant que ça, ça fait qu'il a pu se libérer et aller plus vers l'avant. Quelque chose que j'ai dit qu'il pouvait faire de temps en temps, pas comme Jim Miley. Donc voilà, Tider, avec son doublé, il mérite avec son jeu, avec son, sa forme physique. Je pense que Robert Duvin, la prestatique qui pourrait être prêt physiquement maintenant, on peut avoir cette hypothèse. Peut-être ça a déjà été dit avant, mais je ne suis pas aux entraînements, je n'écoute pas tous les soundbites, donc j'ai l'impression que physiquement, ils sont prêts pour commencer la saison maintenant. C'est mon avis. Ça, c'est pour Tider, comme ça, Poudor, assez évident à mon avis. Puis Silva aussi, il est assez évident. Mais beaucoup de joueurs, dans ce match, ils méritent un petit cap nod. Je pense on leur lave le chapeau pour la plupart du 11 partant. À part Mancuso, en termes de maladresse, il a été quand même pas mauvais. Mais bon, tu as remarqué que je baisse mes attentes. Donc,
ouais, on est rendu vraiment, vraiment, vraiment docile avec lui. Là.
Exactement. Du côté de...
Mais il fait pitié.
Oui, parce que...
Il fait pitié parce que plusieurs fois dans le match, il y avait des occasions.
Ouais.
Et dès qu'il y a un petit doute... C'est terminé. Là, il se met dans une position où il n'y a plus de chance de faire quoi que ce soit avec le ballon. C'est là où toutes les actions où il faut que ça soit le réflexe ou l'instinct du buteur, il n'a plus. Donc, il fait un pas trop, l'angle est un peu plus fermé, la tête est moins assurée. Il est en plein doute. Là. C'est un joueur qui... Tu vois, le langage du corps de Matteo est mauvais. Il a l'air déjà perdu d'avance.
Mais il était pire qu'avant. Il est pire qu'avant, parce que là, il lâche jamais. Là, il lâche pas du tout, il est en jambes, parce que l'équipe est en jambes. Tu sais, il est dans un contact, les matchs d'avant, où il essayait, ça marchait pas, l'équipe était vraiment en mode catastrophe. Donc, je trouve que c'était encore pire.
Ouais, mais dans la boîte, c'est la catastrophe, parce que le reste qu'il fait, il travaille, il fait ses courses, il vient gagner des ballons, tout ça. Dès qu'il se retrouve en money time, dans une situation clutch, c'est fini, il hésite.
Non, c'est vrai.
Vraiment triste de le voir aller. C'est triste aussi pour nous parce que si on essaie de s'en débarrasser, entre guillemets, et qu'il y a d'autres clubs qui le regardent, c'est foutu. Il n'y a personne qui veut de Matteo. Là. Personne.
Je ne pense pas que le but, depuis le mois de mai, on peut oublier qu'un autre club va prendre Mancuso, que ce soit à MLS, de façon volontaire en tout cas. Je ne pense pas que c'est le concept à prendre en compte, Milton. Désolé de décevoir par rapport à ça. Ton côté marchand... Non. Faudra l'oublier.
Mon ami, le Matteo. Prends-le, mon ami.
Oh, caray, prends-le.
Oui. Ça. Maman ne sera pas contente.
Ouais, mais c'est un gros mot qui passe, là, comme t'es con. Hein? Comme rumeur à la con. Hein?
Next.
Trop petit de moi aussi, Mancuso. Du côté de Gélin d'Infoin.
Mais moi, ce qui m'a fait rire pendant le match, là, c'est la sortie de Boli après 5 minutes à la deuxième demi. L'entraîneur, il a beau lui faire un discours à la mi-temps, il a dit « fuck it ». Il n'a rien compris. Il est complètement dominé par Fanny. Ciao, ciao, on le sort. C'est incroyable. Hein? Il y a eu un... Boli a eu un parcours de carrière assez bizarre. Hein?
Ouais.
Il est très jeune, il était bien visé. Il était dans les bons espoirs. Là, il a de la misère à tenir une place dans une des pires équipes de la MLS. Je ne sais pas c'est quoi son salaire, je ne peux pas aller voir, là, mais oh là là
là. Mancuso Boli, tout de suite.
On switch
maintenant. Moi, Gélin d'Infoin, c'est l'entraîneur de Colorado qui était tout en infraction de sa zone technique. Il n'était jamais intéressé à ligne. Donc, c'était un moment que j'avais remarqué. Non, mais il était tout le temps.
Les meilleurs font ça.
Je sais que la ligne de touche, la zone technique des entraîneurs à l'Impact de Montréal est très, très petite. Du moins, la distance entre... Ben la largeur du terrain sur le banc, quoi, c'est assez serré. Puis je me dis, bon, il était quasiment cinquième arbitre. Voilà tout ce que j'ai à dire. Il était tellement entre les deux bancs qu'on se disait que peut-être il va se convertir. Il se dit, OK, cette équipe est pourrie, je me convertis maintenant.
Switch avec la quatrième arbitre.
Mais c'était bien lui, l'entraîneur de Nouvelle-Zélande, je pense. C'était le sélectionneur de Nouvelle-Zélande. Donc,
exact, c'est lui.
Ça explique des
choses. Il y en a une couple, il y en a deux, trois joueurs de la sélection de Nouvelle-Zélande.
Ouais. Je pense que ça s'appelle la collusion.
Ouais.
Donc, du côté du public qui ont participé en ligne au Saputo d'Or, Trop Poutine, Gélin d'Infoin, on va lire Marc Baltet, Saputo d'Or, Silva, Trop Poutine, Mancuso, Gélin d'Infoin, la formation 5-4-1 du Colorado, Stavrad, son Saputo d'Or, Tider, mais Piatti Silva mérite des nods, Trop Poutine, j'ai pas envie d'en donner, c'est ton choix. J'ai l'air d'un foin, j'adore Fanny, mais ce nouveau surnom de Flash Papy, je me demande comment Oduro se sent.
Flash Papy.
Bien joué. Frenchisme, Monsieur Frenchy, Saputo d'or, Golo Kanté, Samuel Piet à égalité avec Tider. Donc Samuel Piet, c'est le Golo Kanté québécois. Trop poutine, Rod Fanny, il est un peu fatigué là. J'ai l'air d'un foin. Duval en première mi-temps, qui essaie de faire une virgule. FC Factory, Saputo d'or, Sylvain.
C'est une cheville, il y avait en le faisant un peu.
Sylvain et Kroloki. Trop poutine, Stratégie Colorado. Et j'ai l'air d'un foin, Duo et Saputo. Ok, j'ai pas le contexte pour ça.
Bah, probablement pour le bordel dans la section 131.
Michael Forcier, Atmica Force 23, Saputo d'or, Saphir Tider, bel ajustement en deuxième demi face à l'autobus stationné. Trop petit, Mankozu incapable d'être au bon endroit. C'est probablement, je pense, ta cousin Hilton que tu as hacké son compte. J'ai l'air d'un foin, le SPVM qui calme la sécurité en 131. Et un petit dernier pour la route, quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup. Bon, au hasard, Nicolas Forger, at Nicolas underscore Forger underscore. Saputo d'or, le jeu collectif de IMFC. Trop poutine, l'entraîneur du Colorado pour son schéma tactique audacieux. J'ai l'air d'un foin. J'ai une tante qui préfère se fumer à la mi-temps que le donner à boire à son fils. C'est un inside?
Non, mais,
est-ce qu'on le bloque?
Non. Bloque personne. Non, bloque. Ah, ben, on a été récompensé après, n'est-ce pas?
Tout à fait. Voilà. Ce qui arrive dans le vestiaire et dans le vestiaire. Donc, merci tout le monde de participer aux évaluations, les hashtags. Évidemment, n'oublie pas de remplir le formulaire d'évaluation officielle pour qu'on puisse compiler toutes les stades pour chaque match, pour avoir une compilation d'année et avoir des awards. Donc, vous allez suivre Sid at Solambe, S-O-L-A-M-B-E-Y pour trouver le formulaire Google. On l'a retweeté. Suivez-nous pour trouver ce formulaire. On va le refaire juste après l'émission. Hilton, c'est le moment des questions du public. Bon. Vox Pop.
Tout de suite, la question. Alexis demande, est-ce que Tider est merveilleux, incroyable ou tout simplement divin?
Il est un vrai diablotin de divin. Diablement bon. Hein, pas mal. Hein. Il est divin.
Les gens ont été encore plus contents pour toi que
tout
pour
à fait.
Tu le sais, hein?
C'est incroyable. Regarde, la pitié, c'est pas nécessairement quelque chose de bien, mais je la prends. Hein, j'aime ce sentiment de pitié qu'on a envers moi. Non, mais bon, il est pas
gilet. Il cherchait des yeux parce que quand j'ai revu le match le lendemain, là, il avait l'air à regarder là, vers la tribune et il est où, Sofiane?
Non, mais. Mais blague à part, vraiment, il est pas divin. C'est juste un bon joueur. Vraiment, tout ce qu'il fait de bien ne m'étonne pas. C'est plus la mauvaise passe qu'il a eue. M'inquiétait un peu, mais je l'ai mis dans mon dossier. Ce club est nul, c'est normal. Et je l'avais prédit Tider, c'est pas un joueur qui va monter ton équipe à deux niveaux si tes joueurs sont pas capables de faire du mouvement, du jeu un minimum. On voit que physiquement, tactiquement, l'équipe est à l'écoute du coach, puis il y a un déclic. À force de perdre des matchs, tu peux pas en perdre 25 de suite. Tu peux, mais c'est très rare et puis c'est important que l'Impact a pu le faire. Et Tider, Tider qui joue bien, c'est le symptôme d'un club qui va mieux sur le terrain. Notre prédiction, notre playoff, ça marche plus, Hilton, peut-être, on verra.
C'était la prédiction générale de tout Montréal. On n'était pas très, très innovateur avec cette déclaration-là.
Exactement. Surtout qu'on nous a
copié. Mais on le voit libérer sur le terrain. Hein? Moi, je continue à croire que l'épisode avec la sélection d'Algérie, ça c'est venu combiner avec la très mauvaise passe avec l'équipe.
Oui.
Il avait l'air découragé. Et, dans, un autre, dans le langage corporel, là, sur le terrain, il avait l'air à s'en foutre un peu. Là, il est arrivé le carton rouge. Probablement qu'il y a eu des doutes dans sa tête. Il s'est peut-être vu aussi meilleur qu'il l'est en se disant « c'est moi qui vais prendre ce club-là sur mes épaules ». Il s'est donné un rôle qu'il est incapable d'assumer. Maintenant, il est plus, pour parler comme en termes de hockey, là, il est sur sa chaise. Il a compris que la chaise à Piatti, elle ne fitait pas pour lui. Donc là, il reste dans son élément. On le voit, là. Tu sais, ses buts, c'est pas des buts. Wow, là. Il a été un peu chanceux, là. Gardien de Colorado un peu raté. Sur le premier arrêt. Sur le deuxième but, il y a un contrôle, il y a un bon favorable. Tu sais, tant mieux, là. Il y a eu d'autres occasions nettes, puis il a pas fini. Cette fois-ci, il y a eu deux demi-occasions, puis il a mis. C'est bon pour la confiance.
Non, c'est vrai. Et puis, il n'y a rien fait de spécial sur le terrain tant que ça. C'est son jeu. C'est la course, c'est les passes simples, c'est les joueurs entre les lignes.
Oh, il revient beaucoup derrière. Il y a eu 2-3 occasions défensives. Il a récupéré le ballon de la bonne façon pendant que les défenseurs étaient débordés. Donc,
non, tout à fait. C'est exactement ça. Et puis, je comprends que tout le monde est soulagé pour moi. Moi, je suis plus soulagé pour le football parce que je suis aussi soulagé pour Silva aussi. Parce que Silva, je commençais vraiment à être inquiet. Ouais. Moi, Taïda, ce qui me dérangeait, c'est les faux arguments. Il est DP, ça veut rien dire, joueur désigné. Il est juste bien payé. Il a un bon agent, donc tant mieux pour lui.
Et payé comme Silva.
Exactement. Silva, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de tag joueur désigné. Alors qu'il fait facilement plus que 800 000. Il n'a pas quitté l'Argentine pour se faire un salaire à la Cancroliki. Ça, c'est clair. Donc, c'est plus ça. Puis, il compare avec Bernier, avec Gemayli. Il faut qu'il marque des buts. Il dit, qu'est-ce qu'on a à foutre? L'important, c'est qu'il y a un impact sur le jeu. Et Pyramiga l'a ramené pour avoir une influence sur le jeu. Encore une fois, il s'appelle Tider. Ça ne veut pas dire que je vais être gentil avec lui par défaut. Et c'est très important que les gens comprennent qu'à un moment, je suis capable d'être objectif le plus possible. Et j'ai besoin que tout le monde qui interagit avec nous et qui parle foot sur les hashtags MMC, ce qu'on vous lit, ne pas nécessairement faire des conclusions hâtives. C'est tout ce que je demande, parce que si vous parlez publiquement, attendez-vous qu'on vous lise et qu'on veuille vous répondre publiquement, que ce soit via Twitter, sur des articles, via ce microphone. Donc, c'est important. Juste montrer un peu plus de jugement au lieu de sauter aux conclusions. Je parle un peu comme ça.
Stéphane Demers nous demande justement sur Periscope, puis je ne l'ai pas vu passer cette info-là, mais est-ce que la famille de Safir est arrivée dernièrement à Montréal? Est-ce qu'il était...
Non, ils étaient là il y a un bout.
Ils sont là depuis un bout.
Non? Je les voyais, je les ai vus à Ramadan, j'ai vu des vidéos, ils étaient là.
OK.
Mais peut-être qu'ils n'étaient pas là tout le temps, mais non, c'est correct.
Sinon, Stéphane nous demande aussi sur Periscope, puisque c'est le mercato à partir de demain, est-ce qu'on pourrait obtenir finalement plus au lieu d'échanger nos indésirables comme Cabrera, échanger un gars comme Jackson Hamel pour obtenir davantage, plus que juste de la marge dans la masse salariale? Je ne sais pas c'est quoi la valeur d'un Jackson Hamel.
Voilà, c'était ma question. Que vaut Anthony Jackson Hamel?
Et Jackson Hamel, c'est un étranger, c'est un spot international. Hors Canada, non?
Je pense que oui. Je pense que
toujours,
oui.
Est-ce qu'il est considéré comme dans la nouvelle vague des gens formés dans l'académie qui comptent peut-être pas comme international?
Peut-être, mais peut-être que ça s'applique seulement à ceux de maintenant. Ça va, c'est pas rétroactif comme règle. Mais en tout cas, en-delà de son statut résidence green card aux États-Unis ou pas, pour Jackson Hamel, c'est qu'il y a un doute par rapport à sa qualité pour attirer d'autres clubs. Pas nécessairement avec sa qualité, par rapport à sa qualité, par rapport à ce qu'il a montré très peu, parce qu'il joue très peu. Entre blessure et perte de poste face à Mancosu, ce qui est un peu gênant, si j'étais à sa place, c'est frustrant, surtout pour lui. Je vois pas c'est quoi sa valeur. C'est pas comme le hockey où tu échanges pour échanger, honnêtement. Si tu peux avoir une place internationale pour Jackson Hamel, tant mieux. Si tu peux avoir de l'argent, tant mieux, mais honnêtement, voilà, il faut plus s'attendre à ce que retient ses droits, garde ses droits quand il va vouloir aller ailleurs en Europe, puis c'est tout. Ça n'a rien de l'échanger. L'impact a d'autres besoins que d'échanger. Ils ont besoin de places internationales, ils ont besoin de flexibilité financière, ils ont besoin de finaliser des transferts. Sinon, le mercato va être assez sombre et sobre.
Moi, je ne vais pas souhaiter de malheur à Matteo, là. C'est pas mon genre. Mais moi, ce que j'espère, c'est si jamais Matteo, parce que physiquement, il y a de la difficulté d'aligner des matchs et des matchs. Si jamais un jour Matteo doit s'absenter pendant quelques semaines, j'espère que ça va coïncider avec une période où Jackson Hamel est en santé.
Oui.
Parce que si le coach est obligé de le faire jouer, entre guillemets, Jackson Hamel, comme il a été obligé de faire jouer Chris Duval, je suis convaincu que Rémi Garde pourrait comprendre l'importance d'un Jackson Hamel, pourrait se rendre compte de ses propres yeux de la valeur de Jackson Hamel. Je ne suis pas en train de dire que Jackson Hamel, c'est un titulaire, un 11 dans toutes les équipes de la MLS, mais ce que je considère, c'est que Rémi Garde peut-être sous-évalue ce que Jackson Hamel peut faire sur un terrain. Moi, je ne le vois pas en entraînement. Je n'ai jamais vu un entraînement de l'équipe. Je fais confiance en 100% à Rémi Garde sur ses décisions en se basant sur l'entraînement. Moi, j'ai vu du Jackson Hamel sur le terrain plus que Rémi Garde, parce que je ne suis pas sûr qu'il s'est tapé tous les vidéos. Parce que probablement qu'il a jugé que ce n'était pas important. Bref, on va revenir. Jackson Hamel dans cette équipe-là, encore contre Colorado, je suis convaincu qu'il y a un but.
Oui, je pense que oui. Puis avec les chances que l'impact a eu, je pense qu'il aurait au moins eu des tirs au but, que ce soit des têtes au but là, ou des tirs au but. Je pense qu'il l'aurait eu, mais en même temps, on se dit, est-ce qu'il aurait eu la fraîcheur et la forme physique d'être dans les positions dans lesquelles Mankosu se met? Parce que Mankosu, malgré son... Oui, oui, mais on se dit, what if?
Non, mais Milton, utilisons les mathématiques. Moi, ça ne me dérange pas qu'on utilise Matteo. Moi, ce qui me dérange, c'est le 60 minutes de Matteo versus le 30 ou 20 minutes de Jackson. Qu'on inverse plus souvent qu'autrement, I'm fine with it. C'est plus ça que je ne comprends pas. Ben bon,
mais honnêtement, les deux...
C'est qu'on a déjà eu.
Dans le, je sais, mais dans le cadre, dans ce que l'Impact a besoin pour hausser son niveau avec ce qui se passe dans le reste de la Ligue, je pense que Mankosu avec Justin Hamel, c'est marginal. On parle de
ouais, mais les playoffs, des fois, c'est un point ou deux la différence.
Voilà, on se fout des playoffs. Là. L'Impact doit préparer l'année prochaine et 2020 maintenant. Si tu fais les playoffs, tant mieux, mais à un moment, il faut que tu... Il faut que tu prépares quelque chose.
De temps en temps, pendant le processus, on pourrait avoir du fun un peu aussi.
Là. Oui, oui, mais Rémy Garde, on dirait qu'on a un semblant de fond de jeu, au moins d'une idée de jeu ou des comédies. Lui, il a des concepts. Il n'y a pas nécessairement une philosophie. Il n'est pas dogmatique, mais plus, il a une idée de jeu. Il voit comment elle peut vivre et elle peut évoluer à l'intérieur avec ce qu'il a sous la main. Mais tu sais, il faut penser là, tu sais, il faut que Silva ça aille plus vite, il faut que Piatti continue, il faut un attaquant, il faut trouver quelqu'un pour remplacer Kroliki pour jouer à son poste, ou que Kroliki s'améliore, puis Kroliki s'améliore énormément.
Il s'est trouvé.
Incroyable.
Tu trouves pas?
Incroyable.
Non, mais sérieusement, on le voit, les prises de décision sont meilleures, les prises de risque aussi sont intéressantes, la confiance grandit.
Oui.
Je suis pas en train de dire qu'il va devenir... Bon, justement, on peut parler un peu de la question de Vincent Constantin qui demande est-ce que le Kroliki est un joueur qui pourrait être avec l'Impact à long terme? Bon, faut définir c'est quoi long terme, là, mais...
Disons 3 ans.
Ça, c'est oui.
Pourquoi pas?
Il faut des joueurs comme ça, des jeunes. Tu sais, la fameuse présentation de Joey quand il nous a présenté Rémy Garde et son staff, un des points, c'était le développement de l'académie, mais il faut voir ça plus grand. Là. C'est le développement à l'interne des jeunes joueurs. Là. L'académie, oui, mais le draft fait partie de cette formation de base, de titulaire ou de joueur de soutien de qualité américain.
Oui.
Kroliki fait partie de ce lot de joueurs qu'il faut absolument avoir dans une équipe gagnante.
Il faut en profiter, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je trouvais qu'on était trop dur avec Ken Kroliki. C'est un peu le bouc émissaire à la Danny Lovitz. On va parler de Lovitz après, je pense. Au moins, ça me tente. C'est un peu par défaut. On se prend un gars, il rentre dedans, il est américain, puis boum. Par hasard, Lovitz et Kroliki sont américains. Mais c'est plus par rapport à Kroliki. La critique envers Kroliki était un peu trop dure parce que c'était un jeune qui n'a pas d'expérience. On avait zéro attente envers lui. Je pense que les gens critiquaient plus le club que Kroliki. On est d'accord sur ça. On critiquait le mercato du club, Ebraz et DeSantis et Garde et Saputo, au lieu de pourquoi blâmer un jeune de 21, 22 ans qui a jamais joué une minute professionnelle avant de s'amener à Montréal. Et puis, je pense qu'il avait un aspect physique dans son jeu, un aspect d'intensité, d'énergie. Puis, on avait une certaine évolution. Puis, quand il jouait mal, Rémy Garde ne le mettait pas parce qu'il savait qu'il était en position de difficulté. Puis ça avait rien de mettre en danger son club, son équipe et le joueur juste pour le faire jouer des matchs. Donc, il a été bien géré par rapport à ça. Et quand l'Impact est dans une bonne phase, Kroliki fait partie de cette évolution positive, pour ensuite te dire, il n'est pas si mauvais que ça. C'est pas un numéro 10, là. C'est pas le futur MLS star. Peut-être il va l'être, peut-être on l'évalue mal. Mais de ce qu'il fait sur un terrain, il fait mieux que les autres joueurs qui compétitionnent pour le même poste. Chami Tchom, honnêtement, Louis Belanguet, je le regrette qu'il est blessé. Ouais, honnêtement, ouais. Il aurait vraiment eu beaucoup de compétition avec ce que Chami Tchomi et Ken Kroliki donnent sur le terrain. Donc, tant mieux pour le club qui a de la compétition. Et puis, ça donne peut-être une sorte de balise pour les futurs joueurs qui arrivent. Regardez, c'est ça le niveau d'énergie qu'on recherche, le niveau de travail et d'intensité. Donc voilà, moi, Kroliki, c'est un joueur intense, intelligent, intéressant. C'est pas l'appel rare qui s'est caché. C'est un joueur qui a trouvé sa place et que j'espère pendant 3-4 ans, il peut rester là et puis se développer. Moi, je le trouve intéressant. Et voilà.
À chaque fois que tu me sors ton « et voilà », je suis, j'ai un deux secondes de brain freeze. Franz nous demande « aucune rumeur à propos d'un 10 entourant le mercato d'été jusqu'ici, est-ce que ça vous inquiète? » C'est pas parce qu'on n'entend pas parler qu'il n'y a rien. C'est sûr que Rémi Garde a passé une commande à Braz et DeSantis et tout d'un coup, il va y avoir un nom de joueur qui va apparaître. C'est officiel. Le milieu qui soit offensif pur ou un peu plus créatif que Saphir Taider fait partie du top 2 priorité recrutement du club. C'est sûr.
Il ne faut pas être un génie pour comprendre ça.
Non.
Alors, on n'a pas besoin d'un divin.
Non, et ça date de janvier. Quand il y avait les rumeurs et même les négociations avancées avec Thibaut Moulin, c'était pour ça. Il y a ce poste-là à combler. Si on s'est retrouvé à avoir toutes les minutes de jeu de Ken Kroliki, c'est parce qu'on n'a pas été capable, jusqu'à maintenant, à trouver ce milieu offensif. Peut-être que la solution va venir de l'interne. Puis quand je dis interne, je parle de la MLS. Parce que là, il va manquer des places internationales. À moins que tous les clubs américains se retrouvent avec une ou deux places de surplus. Mais va falloir probablement se taper un échange à la Eric Alexander comme les dernières années. Un patchage temporaire. Parce que dans MLS, un bon milieu offensif disponible, j'en vois pas beaucoup. Là.
Non, mais en même temps, mis à part de par rapport à la disponibilité, c'est que moi, la disponibilité m'intéresse moins que l'exécution. Moi, disponible, Europe, MLS, débrouille-toi parce que tu connais, on sait clairement le besoin de l'impact. Débrouille-toi à trouver les joueurs. Tu n'as pas le choix, que ce soit pour cette année ou l'année prochaine, il faut que tu signes des joueurs de qualité. Trouve le Silva en attaque, un Uruguayen, un Français si c'est Jimmy Briand, mais assure-toi de l'avoir. Parce qu'on en a marre. Moi, je pense que le public, moi, j'ai pas de stake, je m'en fous un peu. Et puis, on a marre d'entendre l'impact d'après des rumeurs. Quand tu avais tes affinités par rapport à Jimmy Briand, ben, l'impact rechigne à payer un montant de transfert. Ben bon, là, tu élimines 90% des signatures que tu peux faire dans le monde.
Beaucoup plus.
Ouais, 90%, je suis gentil, exactement.
Et le timing est mauvais parce que la fenêtre du mercato à MLS va se fermer avant l'Euro. Donc, les joueurs libres, ils vont tarder avant de dire oui avec un club de la MLS.
Tout à fait.
Là, il va falloir trouver des occasions parfaites. Là. Reproduire le scénario de Marco Di Vaio, une bonne entente avec son club, le laisse partir. Mais tu sais, combien que ça coûte un Jimmy Briand en transfert? Est-ce que ça coûte vraiment 1 million? Tu sais, j'ai entendu des 7 chiffres, des 2 millions. C'est un joueur de 30 ans passé, un an de contrat. Il ne vaut pas tant que ça. Là. Honnêtement, je ne vois pas beaucoup de transferts d'un vétéran comme ça à un an de son contrat se faire à 1 million. Là, j'en vois pas une tonne. Il faudrait que je fasse un peu plus de recherche. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je comprends que Guingamp soit très, très réticent à laisser aller son capitaine. C'est dans leur plan de l'avoir. C'est probablement une petite surprise de voir que Jimmy est déjà prêt à partir à Montréal. Il ne manque que des détails au niveau Guingamp. On parle avec Montréal, tout est déjà réglé, c'est dans la poche, tout est fait. Mais Guingamp doit montrer un peu de j'allais dire de fair play, là, mais il doit comprendre que tu ne peux pas retenir un joueur comme ça.
Non, mais s'il le perd éventuellement, ce n'est pas grave. Mais la question qu'on se demande, même si c'est 200 000 de transfert, est-ce que l'Impact veut dépenser $1 pour un joueur dans la trentaine qui va être là sur un contrat court terme? Ouais. C'est ça la question. Est-ce que Fanny serait venu s'il coûtait 300 000, 400 000 de transfert? Je ne pense pas. Fanny est libre. Fanny devient la meilleure valeur ajoutée. Je pense qu'en termes de plus-value dans la MLS, c'est le meilleur investissement. En termes d'âge, de ce qu'il coûte en transfert, $0 en salaire, il n'est pas gratuit. Et ce qu'il fait sur le terrain, on se dit, waouh, Fanny, c'est le newcomer de l'année, quoi, quasiment. J'exagère, évidemment. Ouais. Vas-y, Nathan, vas-y.
Mais oui, tu as raison. Mais juste pour faire l'avocat du diable, est-ce que Montréal a vraiment d'autres solutions de qualité, disons, comme Jimmy Briand? qui ne vont rien coûter. C'est quoi l'alternative?
Ah oui, mais l'alternative, c'est le néant, comme d'habitude. L'alternative, c'est le statu quo. Et le statu quo peut juste te faire régresser si tu es en méforme. Si Tidal ne marque pas des buts, si Biet n'est pas parfait, si Silva revient dans son slump, si Fanny n'est pas fort. Donc, tu as toutes ces hypothèses sur un 11 partant, qui a peut-être un 12-13 partant, c'est déjà mieux qu'avant. Mais tu espères que Makuzu marque et tu espères que Jackson Hamel ne se blesse pas. Donc, tu es un peu dans le trou. Et ça, on le sait. Hein, on dit ça depuis janvier. On se répète. On peut juste repasser la cassette puis l'émission est faite. Mais c'est plus par rapport au mercato. L'impact, il faut qu'il sorte de sa torpeur de ne pas vouloir mettre d'argent.
Surtout s'ils sont convaincus de la qualité du recrutement. Si ça coûte 500 000 dans leur budget de recrutement pour avoir un attaquant de qualité, professionnel, quelqu'un qui correspond aux besoins de l'équipe, pour deux ans et demi, c'est pas cher payé quand tu regardes que tu payes 700 000 en salaire à un gars que tu voudrais juste te voir partir le plus vite possible.
Non, c'est vrai.
Je pense pas que ça soit possible là, maintenant dans la MLS de construire avec des contrats libres. C'est utopique, c'est une ancienne façon de faire.
Pas qu'on n'a pas un directeur de scouting à l'impact. Si tu me dis que tu as un scouting director comme Columbus A, je me dis, OK, Adam Braz, Nick DeSantis, Remingard et Monsieur Fantôme, directeur du scout. OK, dépistage. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Tu peux trouver des bons deals. Le gars fait ça à temps plein, il voyage, il a des PGs qui font des scouting pour lui, ils font des petits rapports, patati, patata. Mais à part ça, dans l'organigramme de l'impact, ce rôle n'existe pas. Ce rôle est géré par Bologne. Le centre de recrutement de Bologne, la cellule de recrutement de Bologne fait aussi un peu de recrutement pour l'impact. C'est partie de la synergie. Exactement. Et Boldor, c'est ça, Boldor.
Oui, il est reparti à Vérone avec Sister Galchenia.
Mais n'oublie pas, il y aurait d'évolution. On est passé de Pisanu.
Paponi,
qui c'était pas si dégueulasse que ça.
C'était pas si bon non plus.
Ouais, on a eu Makuzu, puis on a eu Gemali, ça c'est une cellule de recrutement.
Kroll à gauche.
Kroll, c'était Frank Lopez. On a eu Taïda. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça, le besoin par rapport à la question de. C'était Vincent, c'est ça? Ou Alex? Désolé. C'est pas grave, mais on vous aime quand même.
France.
Ouais. Il faut qu'ils mettent de l'argent. Et ce qui est important, c'est l'attaque. Ils le font un attaquant. En défense, on en a plein. Ils peuvent en échanger. Diallo, Fischer reviennent. T'as Cabrera comme plan B. Si tu ne peux pas l'échanger, autant débarrasser. Donc, tu es correct. Milieu de terrain, il y a du monde. Tu peux tout en ajouter un autre milieu de terrain si tu as quelque chose de bien qui arrive. Mais il te faut un attaquant pointe. Tu n'as pas le choix. Il t'en faut un. Là, Raheem Andrews a disparu. Il ne joue plus. Parce qu'ils n'ont plus besoin de lui. Parce que Silva joue tellement bien. On se dit, il y a un luxe d'avoir un banc intéressant comme ça. Il faut un attaquant. C'est pas compliqué. J'invente pas la roue, là. C'est juste pour dire, il faut un attaquant. C'est tout. Tadier va pas marquer des doublés à chaque trois matchs.
Ou que non. Marc Beltaine nous demande, malgré une possession de 70%, nos deux buts sont venus de contre-attaque. C'est pas un peu inquiétant?
Les deux buts sont venus de contre-attaque. Je pense que c'est plus de la transition rapide, là. La contre-attaque, ouais.
Je comprends la question de Marc, c'est-à-dire on est là, on est en possession. Il n'y a aucune possession qui a amené un but.
Ouais, mais comme Colorado, comment ils jouaient, c'était normal. L'impact et la possession.
C'était une ligne de 5 défendue par une ligne de 4.
Ouais. Ils ne voulaient pas jouer. Ils ont joué un match à la mi-semaine à Seattle, je pense. Ou même si c'était à Colorado.
Il y a
3
jours
de vol.
Ils venaient de se taper Vancouver. Oui.
Vancouver, pardon. Donc, mais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Moi, je trouvais que l'Impact avait des joueurs de qualité pour avoir la possession du ballon contre une équipe faible. J'aurais été inquiet si c'est Colorado qui avait 60% de la possession. J'aurais dit, ouf, il y a un problème.
Mais le fait qu'on ne marque pas de but, on se répète, là, c'est l'efficacité dans la boîte. Là,
Mais en premier temps, il y avait des chances de marquer.
Oui, mais c'est
ça. Et l'Impact n'était pas en contre. Il avait Makuzu 2-3 chances. Il avait Lovitz qui s'est incrusté 2 fois du côté gauche. Honnêtement, après la première mi-temps, c'était la position de balle vers l'avant, construction. Mais,
Moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir un Lovitz qui devenait un attaquant, là, qui oui. il était dans la boîte, là, il s'essayait, il y a Tider qui montait. Tu sais, le fait d'être en position, en possession pendant un bon moment, d'être installé dans la deuxième portion du terrain, ça permettait à Kroliki et à Tider de s'aventurer et de s'installer dans la boîte. T'sais. Ça créait un ils essayaient de créer un peu le surnom. C'est difficile de créer un surnom quand il y a trois défenseurs centraux et que les deux latéraux viennent aussi aider. T'sais, ça demande de la finesse, là, ce que visiblement Matteo n'a plus. Piatti a essayé dribble après dribble. Il n'a réussi à peine deux. Ouais. C'est sûr que c'est compliqué. C'est, l'impact de Montréal a connu les mêmes problèmes que d'autres sélections ont eu en Coupe du Monde. Ils peuvent avoir une possession de 60, 65, 70 mais avoir ce but-là, trouver le bon moment pour faire la passe et être efficace dès cette passe-là, c'est pas évident. C'est pas évident pour des joueurs de si haut niveau. C'est normal que pour l'impact, c'est compliqué.
Non, puis on s'y attendait, mais je trouve que contre Colorado, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Philadelphie, c'est une catastrophe, là, le 2-0. Mm. On pensait que Rémi Garde survirait, c'est fini, Joe Saputo. Philadelphie, on l'avait dit, ah, il ne faut pas le Philadelphie, c'est sympa quand même pas le Philadelphie. Bah, il devrait aller en division 3. Ça arrive, mais je trouve que c'est positif qu'en Colorado, c'est une équipe faible et l'impact a fait la job. Je pense que c'était plus des buts en transition rapide qu'une contre-attaque pure et dure. Ce n'était pas le but du 3 de la Belgique ou le Japon. Là. Ça, c'est une contre-attaque. Transition rapide, c'est un peu différent. Hein, mon humble avis.
Il y a plusieurs questions. C'est un peu à côté du match, mais les 10 premières minutes ont été pas mal concentrées là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui demandent de réagir suite à la situation dans la section juste à côté des Ultras, là, la section 131. Moi, personnellement, je trouve ça difficile à commenter parce que on connaît pas grand-chose. Là. On ne sait pas trop c'est quoi la situation. Je la connais. Je connais ce qu'on lit.
Oui, moi aussi.
C'est à peu près tout. Qui se plaint? J'en ai aucune idée. Les gens qui sont debout, je les ai vus debout dans la section 131 à tous les matchs. Pourquoi tout d'un coup ça devient un problème? J'ai aucune idée. Tout ce que je vois, c'est que la gestion de cet événement-là, c'est un peu amateur. On peut pas se permettre de projeter ce genre d'image-là. Tu sais, je veux dire, le club est assez fragile là, dans la communauté, dans le monde sportif. Pourquoi c'est si compliqué à gérer une situation qui semble assez facile à gérer? Le stade n'est pas plein. Là.
Mais normalement, au fond, la règle, c'était quoi? C'est que le 131, c'était un standing only, puis ça a été changé récemment, puis les gens, et le club a toléré ça? Je ne sais même pas, honnêtement.
Je ne sais pas parce que c'est, tout n'est pas dit d'un côté ou de l'autre. On sent que les gens sont très mécontents, mais c'est normal parce que quand tu vois la police et la sécurité débarquer pendant un match où il n'y a pas de bordel, ça gosse. Hein? On va se le dire. Moi, si quelqu'un de la sécurité vient parce que je suis heureux dans un événement sportif,
ça gâche la fête.
Tout ce qu'on entend, c'est des fans qui sont mécontents, puis que le club, ils veulent régler ça probablement à l'interne, pas de voie publique, mais les conséquences sont publiques. Ma seule suggestion, c'est que le club devrait être un peu plus ouvert au niveau communication.
Ouais,
Parce que peu importe la situation, quand tu ne parles pas, c'est négatif. C'est que du négatif pour toi. Tu te plains que le stade n'est pas plein, tu demandes aux gens de venir. Au minimum, ceux qui viennent, arrange-toi pour qu'ils soient heureux. C'est tout.
Non, c'est vrai, puis c'est vraiment un communiqué pour dire hop, c'est ça qui t'est arrivé, la raison derrière ce qui t'est arrivé, pourquoi on l'a fait, blablabla, et c'est fini. C'est pourquoi je n'ai pas d'opinion à donner, parce que je ne suis pas très clair sur l'événement spécifique, le pourquoi, du comment ils sont venus, avec qui briser, quelles règles, qui communique, puis c'est fini. Mais moi, malheureusement, je comprends que ça gâche la fête, je comprends ton point, et surtout un club qui a besoin de positivisme autour de lui, mais voilà. C'est ce que je pense.
On revient au foot. Matteo Marquez, malgré que le 4-3-3 des derniers matchs fonctionne, l'impact doit-il laisser de côté le 3-5-2 ou le 3-4-3 contre des adversaires plus offensifs comme Atlanta, Red Bulls ou justement mercredi prochain New York City?
D'abord, la philosophie de Remy Gard, c'est vraiment de d'abord bien défendre. Là, changer de formation drastiquement, je pense pas que c'est nécessairement propice, honnêtement. Il faut plus rester sur les bases, bien faire une bonne rotation parce que tu joues contre une équipe faible, San Jose, entre guillemets, équipe faible, samedi prochain, le week-end prochain. Donc, tu dis quel match qui t'intéresse. Perdre contre New York City FC, quelque chose que tu pourrais perdre, mais eux aussi vont jouer leur deuxième match cette semaine. Ou est-ce que tu focuses sur San Jose? Je pense que, bon, les Edwards, les Oduro, les Jackson Hamel, les Cabrera, peut-être, pourraient mériter de faire une petite tournée à New York et jouer au Yankee Stadium. Et puis, honnêtement, il faut juste que ça tourne un peu. Je pense que Gard va tout faire pour gagner, mais il faut faire des rotations, mais changer de formation drastiquement, je vois pas la valeur ajoutée. Ce club-là n'est pas à ce niveau-là. Il est plus à un niveau de renforcer ce qu'ils ont déjà. L'attitude et la bonne forme. Discipline, tactique, stratégie, puis l'application dans le match.
Les fois qu'ils utilisaient la ligne de 5 derrière, c'était parce qu'il n'y avait rien d'autre devant. C'était mathématique. Ceux qui étaient en santé, c'était les défenseurs. Donc, par la force des choses, ils alignaient un 3-4-3 ou un 5-3-2. Je ne serais pas étonné que dans un match important en play-off, pour une situation donnée, pour aller chercher exactement un résultat précis, il pourrait revenir avec une formation à 5 défenseurs. Il peut parce qu'il y a l'effectif pour. Mais avec un Silva à droite, c'est pas un ailier qui est responsable défensivement. C'est quelqu'un qui travaille très, très, très fort à la récupération du ballon. Il a défendre le ballon. Il vient aussi au milieu. Ça devient pas un schéma tactique plus dangereux. Parce que Silva est à droite, il pourrait même garder un 4-3-3 avec Piatti devant. Et il le fait quelquefois, utiliser le vite comme ailier.
Oui, ça peut se faire. Puis c'est une question, c'est quoi que tu veux accomplir exactement? Que veux-tu accomplir? Est-ce que tu veux vraiment montrer quelque chose d'autre à ton adversaire ou tu veux solidifier ce que tu as déjà en place? Personnellement, le fait que l'Impact n'a pas l'attaquant pointe établi et qui fait peur et qui peut établir un rythme et s'imposer, déjà, tu joues avec un joueur de moins, entre guillemets. Dans le sens, pas un joueur de moins, tu as une arme de moins que la plupart des autres équipes ont. Donc, Colorado, on voit qu'ils n'en ont pas. Donc, on voit la différence d'un club qui est mauvais derrière l'attaquant et qui n'ont pas d'attaquant. Donc, ça fait quelque chose qui ne marche pas du tout. Et l'Impact, pendant un moment, c'était ça. Mais on savait que le joueur n'était pas si mauvais que ça. Et blablabla, on ne va pas refaire la saison jusqu'à maintenant. Mais en allemand, le match de mercredi sera un test. Ça va tester un peu une équipe qui joue plusieurs matchs la semaine, comme toutes les autres qui vont faire dans la conférence de l'Est. Et en plus, contre un adversaire qui est bon. C'est un test. Et puis, il faut qu'il passe à travers ça. Maintenant, je pense qu'il faut plus se baser sur les convictions de ce que ce club a, ce que l'effectif de Remy Gard a et veut imposer, que vraiment commencer à chambouler les choses. Parce que c'est dur, on a du mal à dépenser de l'argent pour chercher Jimmy Bruyant. On va pas commencer à faire des 3-4-3 et des 5-4-1 et espérer par miracle que Jackson Hamel va pas se blesser, que Marcus va marquer des buts.
Je serais pas étonné de le voir utiliser, mettons contre Atlanta, où c'est au minimum 3 attaquants hyper dangereux. Oui. Je ne serais pas étonné de voir, dans une situation parfaite là, pour l'Impact de Montréal, tout le monde est en santé, voir une ligne de 3 avec Diallo, Mancuso, voyons, Gamacho et Fanny. Oui. Je ne serais pas étonné là, avec un Lovitz ou un right à gauche. Et Duval à droite, c'est quelque chose de béton derrière dans une situation précise où on veut prendre le minimum de buts. Contre New York City, là, mercredi, David Villa n'est même pas là. C'est une équipe, c'est un bloc équipe. C'est pas nécessairement des stars, un peu comme à Atlanta, où il faut couper les élans offensifs de joueurs précis. Là, ça va être... New York aussi joue en 4-2-3-1. Fait que c'est schéma contre schéma. C'est quasiment du poste pour poste. Donc, c'est logique de revenir avec le même schéma. Comme tu as dit, amener un peu plus de jambes fraîches dans la mesure du possible parce que là, il faut commencer déjà à gérer les matchs aux 3 jours.
Ouais.
Est-ce que Remy Gard a déjà en tête la défaite de New York? Là? Ça sent être trop pessimiste, là, mais...
Oui.
Se dire, aller chercher un point, ça serait déjà très, très bon. Je ne veux pas gaspiller des minutes de jeu inutilement à New York City qui ne passe jamais à domicile et préserver ces joueurs-là pour les prochains matchs.
Mais le minimum syndical, c'est que les joueurs qui vont rentrer, qui sont des joueurs de rotation, ce que Rémy Garde va rechercher, c'est la même intensité qui s'attend des titulaires, la même implication, le même tout, quoi. Et s'il voit que même si ça te bordélique en termes de jeu, parce qu'ils ont très peu joué ensemble, je crois quand même qu'il y aura quand même 6-7 titulaires minimum. En fait, est-ce que Clément Diop va jouer ou.
Qui?
Clément Diop, est-ce qu'il va jouer ou quoi?
C'est qui, lui?
Le gardien.
C'est bien, tu réponds à ma question en plus.
Je me demande, parce que Bush, il joue tout le temps, je suis bien, mais à un moment, il ne faut pas le reposer un peu. En tout cas, je sais que c'est un gardien, ils n'ont pas les mêmes requis que.
Au niveau de champ. Il n'y a pas un joueur de l'Impact de Montréal qu'on peut blâmer son manque d'intensité sur le terrain. Moi, personnellement, il y en avait un qui me dérangeait beaucoup, mais c'est le seul. Il n'y a pas un autre joueur qu'on peut dire, ouais, il se traîne les pieds un peu.
Edwards travaillait mal.
Ouais, mais on parle intensité.
C'est vrai, ouais.
Edwards, même si c'était pas toujours beau, ça s'est amélioré, mais il a toujours couru. Il a jamais. Tu sais, oui, il y avait des fois un langage corporel un peu nonchalant quand il perdait des balles, mais ça s'est beaucoup, beaucoup corrigé.
C'est vrai.
Mais c'est pas un problème, là. Duval a toujours couru. Ça n'a pas toujours été beau, mais il a toujours couru. Mais peut-être que c'est le temps de Petrasso, là. C'est sa fête en plus.
En plus, c'est le moment. Allez, next.
Borat. Salut Borat. James Simoneau. Trouvez-vous lors de ces 4 victoires que Montréal a évolué dans sa façon de jouer ou ce sont encore des victoires à l'Impact de Montréal des dernières années? Oh, dans le fond, est-ce que c'est des victoires par défaut ou des situations parfaites ou c'est des victoires construites par l'Impact de Montréal?
Ben, je pense ils sont construits. Tu peux pas ignorer que Orlando et Colorado sont mauvais, mais ils l'ont fait quand même. Il faut le faire. Puis la victoire contre Casey était importante. C'était un sorte de point. On va espérer que c'est un point tournant de la saison, mais c'est pas contre n'importe qui. Donc, on a vu les mêmes principes. Donc, je trouve que c'est construit parce qu'on avait les mêmes principes. Une défense solide, qui est capable de jouer haut et bas en même temps, un milieu de terrain qui contrôle le ballon. Je trouve que ça fait le travail. Moi, je trouve qu'ils suivent les mêmes concepts et le même script. Quand je le dis, il y a une idée derrière, on voit une continuité de façon positive, donc pourquoi pas. Mais je ne pense pas que c'est un one-time. Ça consiste à jouer contre adversaire faible, mais je trouve qu'il y a une constance.
Moi, ce que je me souviens des fois des victoires puis qu'on essayait de calmer un peu les ardeurs des gens, c'était une chance qu'on l'a marqué dans telle situation parce qu'autrement, il n'y avait rien d'autre puis on a gagné 1-0. Cette fois-ci, c'est différent. On s'en crée des occasions. On ne peut pas croire qu'on a manqué autant d'occasions où on a eu des buts, on a finalement gagné, mais avec le fond du jeu et avec des meilleurs éléments dans des situations précises, c'est pas 2-0 qu'on aurait pu battre, 2-1 pardon, qu'on aurait pu battre Colorado. Ce match-là, on aurait dû déjà avoir 2, 3, 4 buts faciles avant que Colorado marque son but. Donc moi, c'est ça qui est encourageant. J'aime comment que l'équipe a construit son jeu. J'aime l'idée de Jimmy Briand, je la comprends. Le rêve de Ben Arfa, je le comprends aussi. Je comprends aussi que c'est pratiquement impossible. Mais ce club-là peut, avec tous les joueurs en place en santé, 2-3 joueurs, 2-3 bons recrutements efficaces, ça devient une équipe intéressante en play-off.
Tout à fait.
Pas une équipe championne, mais une équipe intéressante qui peut... dans des situations précises, avec un bon temps, avec du succès, dans certains matchs, avoir une belle run. Là.
Je suis d'accord, je te rejoins. J'ai rien à rajouter par rapport à ça, c'était parfait parce que ils sont à quelques jours d'être bons, pas nécessairement constants et Atlanta et Toronto
non,
comme
non,
l'an
mais
dernier.
Ça, on ne sera jamais comme ça.
On ne sera jamais comme ça, mais jouer avec tes armes, mais c'était tellement mauvais comme Mercato qu'on ne peut pas faire pire, sauf le statu quo. Donc, voilà.
Veux-tu qu'on parle de Bernard Fay? Il y a quelques questions là-dessus.
OK.
Non?
Ah, si tu veux.
Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, à la limite, si on avait un budget limité, c'est quoi la nécessité d'avoir un gars comme lui sur le terrain parce qu'on a besoin d'un attaquant et pas nécessairement de
puis c'est pas nécessairement un 10.
Je te garantis que s'il va sur le banc, on va pas se plaindre avec Ben Arfa à droite. Là. Je pense pas que c'est la fin du monde.
Mais
tu peux upgrader, Silva avec Ben Arfa, je dis pourquoi pas.
Mais on est d'accord que si la tempête parfaite se produit et qu'un Ben Arfa décide de venir à Montréal, ça peut transformer l'équipe.
Oui, en termes de jeu, visibilité, j'ai toujours dit que c'est un C moins en termes de visibilité marketing. Là, parce qu'il va ramener la visibilité s'il n'a pas commencé à gagner des matchs, puis il marque des buts, là, à la, des goals of the week à chaque semaine, là, puis des actions, ça c'est clair. Mais c'est pas du marketing fringant tant que ça, là, mais je suis d'accord.
Mais il y a le potentiel d'allumer le feu sur le terrain, là, on s'entend.
Oui,
là.
Il est là pour ça. C'est un joueur qui fait pour mettre le bordel sur le terrain de façon positive, vraiment allumer le feu, comme tu as dit. C'est son travail. C'est son travail, et puis l'impact ne peut pas dire à ce genre de nom, à ce genre de joueur, si ce joueur veut venir à Montréal.
Oui, et puis c'est logique. C'est, oui, les gens trouvent que c'est irréaliste, mais tu sais, si on regarde ça de façon froide, là, oui, il y a des liens avec le staff lyonnais de Montréal. Oui, ils se sont peut-être renseignés. Probablement que ça a du sens de faire une offre de contrat préliminaire, tu sais, démontrer le sérieux de leur intérêt, dire regarde, tu sais, même pas besoin de se rendre jusqu'à Ben Arfa, mais juste avec ses représentants, dire regarde, nous, on serait intéressés, voici ce qu'on peut t'offrir. Regarde maintenant, va magasiner un autre club, regarde qu'est-ce qu'on t'offre, pas juste en conditions salariales, mais en conditions de jeu. Il sort de 12 mois avec zéro minute. On sait pas c'est quoi son intérêt, tu sais, je veux dire, quand Drogba est arrivé à Montréal, il aurait pu signer avec n'importe quel autre club ailleurs pour plus d'argent et probablement pour un projet plus intéressant que l'Impact de Montréal. S'il est venu en MLS, c'est parce qu'il voulait l'expérience MLS et il a décidé qu'il allait le faire en français à Montréal. On a été bien. Est-ce que c'est totalement impossible que ça arrive à Ben Arfa?
Non, c'est pas impossible.
Les chances sont faibles, on est d'accord.
Moins de
mais
chance,
impossible,
oui.
Impossible, c'est exagéré, là.
Impossible, impossible is nothing, Milton.
Mais en plus, il y a quelques cases qui sont cochées, là. Tu sais, Rémi Garde, c'est une grosse case, là.
Non, mais je suis d'accord.
La MLS, c'est pas intéressant, donc, tu sais, c'est pas impossible.
C'est pas fou, mais il faut quand même avoir des plans viables, à part Ben Arfa. Ouais.
Non, il faut pas que ce soit son plan A, là.
Parce qu'on est d'accord que Drogba est tombé du ciel. Sinon, parce que la saison de l'Impact est finie. Elle était finie, là. S'il ne venait pas,
pas autres, juste là. Du ciel. Il aurait dû faire, tu sais, là, le derrière chaque victoire, là, il aurait dû faire derrière un coup de téléphone. Ça devait être spectaculaire. T'imagines là, la personne qui a annoncé ça, je ne sais pas qui a annoncé à Joey ou Joey a annoncé ça à qui, ils ont dû tellement rire. Là. C'était juste spectaculaire. Mais bon.
J'ai ri.
Docteur Foot nous demande, ce groupe qui manquait de talent et qui perdait en début de saison s'est transformé en équipe qui gagne. Qui a gagné 4 matchs.
Voilà.
Qu'est-ce qui a changé?
L'attitude.
Oh no, God.
Non, vraiment, c'est l'exécution. Moi, je l'avais
mais
dit.
Ton attitude n'est pas folle. Ouais. Mais si tu la changes, c'est pas la confiance.
Oui, c'est ça.
Tu es allé chercher un peu de confiance avec les bons clubs, avec les clubs où ils pouvaient aller chercher de la confiance.
Exactement. Ils ont exécuté quand il fallait le faire. Ils ont eu un peu de malchance, entre guillemets. Je sais que tu n'as pas sur mon Hilton, mais ils auraient pu avoir quelques rebonds favorables. Je sais que les rebonds favorables, il faut que tu l'écris par toi-même. Mais ils auraient pu. Et si on voit les matchs contre Atlanta, comme Minnesota, on se dit what if, un petit match nul, une petite victoire là, puis on n'aurait pas été en.
Oui, dans plusieurs défaites, on disait souvent dans les podcasts, on n'était pas si mauvais.
Ouais, et puis les gens étaient frustrés. Les gars, pourquoi vous êtes énervés? Ils ne sont pas si mauvais que ça, juste qu'ils ont perdu 6 de suite, 7 de suite, 8 de suite, 9 de suite. Là, on comprend la frustration, mais c'était pas si mauvais que ça, mais on savait les points faibles, clairement, et les manques, Mercato, pas Mercato, etc. Puis tout ce qui manquait, c'est l'exécution. Nouveau groupe, nouveaux joueurs. Quand ça perd, personne n'est content dans le vestiaire. Rémi Garde fait des engueulades. Le vestiaire, il était un peu contre lui. Il n'était pas content. Puis voilà, dès que tu crois un message et que tu te reposes un peu, puis que Joseph Poto ne parle pas à la radio, c'est bon. C'est parfait.
Mais la grosse différence, ça part de la présence de Rod Fanny. Parce que lui, ce qui amène sur le terrain, il n'y a pas juste les ballons gagnés, mais la façon qu'il gagne les ballons, c'est propre et c'est déjà en mode possession de ballon.
Oui, il va dans l'avant direct, oui.
Oui, et puis il n'y a aucun geste précipité. Encore là, le Colorado était en mode béton, le park de Boston, puis donc il n'y avait aucun pressing, ça aide, mais il a juste manqué 3 passes. Il n'y a pas de déchets. Il est là pour gagner le ballon et pour attaquer proprement, pas pour balancer devant. T'sais. Donc, on le voit beaucoup, beaucoup parler avec ses joueurs autour de lui. Là. En défensive, c'est lui le patron. La journée qu'il va se blesser, qui va redevenir le patron de cette portion du terrain? C'est compliqué, puis on l'a vu.
Non, mais on va clairement paniquer. On va clairement paniquer.
Et en clair, la signature, là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Tant et aussi longtemps que Fanny est sur le terrain, ce club-là règle un gros problème.
Mais il faut le gérer. S'il vous plaît, gérez-le. Là. Il n'est pas obligé de jouer contre New York. Il n'est pas obligé de jouer contre New York. Je pense qu'il va le faire. Ouais. Mais il n'est pas obligé. En tout cas, faites ce que vous voulez.
Et mettez-les pas à droite, s'il vous plaît. Ne le faites pas courir pour rien. Gardez ses jambes-là fraîches.
Exactement. Exactement.
Faut que les muscles
doivent. Merci, Dr. Foot, pour la question.
On parle encore de Kroliki, le potentiel de Kroliki. Kroliki, là, dans le fond, c'est. Il pourrait devenir ce que au départ, on voulait que Warner soit. Hein, un gars qui. Hein, s'il peut devenir un plus Colin Warner, ce serait pas mal.
Ouais, il fait bien la navette box-to-box militaire. Il le fait bien et puis il est confiant. Faut juste pas trop dépendre de lui hein, pour dire ah, il va tout faire. Faut juste laisse le faire dans son cadre. Là. Faut pas trop le surjouer là, ou le surplacer, mais je pense qu'il va être correct.
Une petite dernière question.
La dernière question. This is the final minute.
Il y a beaucoup de commentaires qu'on a déjà fait le tour, pas mal des gens qui... Tiens, on va parler un peu de...
The green card?
Oh God, la green card.
Joseph Martinez vient d'avoir une green card. C'est incroyable.
Ça fait 18 mois. Tous les joueurs qui sont là depuis 18 mois, c'est automatique. Mais j'ai vu un article. Ça coûte pas si cher que ça. Hein? Les clubs se sont spécialisés dans l'obtention de la green card. Il y a un fast track qui existe.
Oui.
Il y a une façon de remplir le formulaire. C'est aussi niaiseux que ça. Là. Ça coûte à peu près 3 000 $
pour avoir.
Non, c'est complètement ridicule. Mais oui, ça va devenir un enjeu. On est convaincu que les clubs canadiens ont déjà passé leur message.
J'espère.
Mais ultimement, ça peut être bon aussi pour l'impact. Si tout le monde a des places en surplus, le prix va baisser. C'est une demi-saison. C'est pas vrai que les prix vont monter. Là. Les prix vont baisser.
On espère que les prix vont baisser, mais on espère que les clubs vont vouloir aider le club. Parce qu'ils se disent, il faut que tu vises des clubs qui sont derniers. Ils disent, nous, on a besoin d'argent. Donne-moi 50 000, je suis content. Donne-moi 75 000, je suis content.
Ouais.
Mais d'autres clubs ne vont pas vouloir t'aider nécessairement en termes de compétition. Si New England n'a pas voulu échanger l'Inuen dans l'Est, un autre club n'a pas donné des places internationales.
Mais eux, ils sont bornés. Ils avaient plus pour Lee Nguyen, puis ils ont préféré.
Mais pourquoi je vais donner une place internationale à toi, mon compétiteur dans l'Est, pour que tu ailles chercher Jimmy Briand ou whoever? Tu sais, dans la
ouais, mais je vois mal San Jose refuser. Là.
C'est vrai, ils ont besoin d'argent. Ça coûte cher de vivre dans la baie de San Jose. C'est cher.
Il y a un bel attaquant à San Jose. Hein.
Américain? Ou Wando?
Non.
Wando. Ah, Wando,
il ne voudra jamais.
C'est un mancozou américain. Il n'est pas bon, il est pourri.
OK.
Non, je blague. C'est un très bon attaquant pointe old school. Lui, dans les années 90, là, c'est une star.
Bon, c'est déjà pas mal. Année après année, il est marque ses buts.
Ah, il est constant. Il est constant. Lui et Salinas, j'aime beaucoup. Les droits. Il n'arrête pas de courir. Je sais pas comment il fait là, mais là, il est vers la fin. Mais depuis que je suis la menace, il est constant. Ouais, c'est ça.
Bon, pour terminer, tes prédictions pour mardi. Mardi
match nul. Mercredi match nul, pardon. Puis samedi défaite. Il faut un peu de drame, un peu.
Maintenant, on est long des équipes.
Bah, ils vont faire un match nul contre New York City, c'est ça?
Non, excuse-moi, je parlais de... Ah oui, ça se fait. Défaite? Ah. T'as parlé de défaite? Non, tu parlais de l'impact défaite samedi?
Oui, contre San Jose.
Oh, come on, man.
Ah, mais tu veux une...
Non, moi, je te parlais du...
Moi, je dis... Ce que je pense qui va arriver, c'est Belgique-Angleterre en finale. Ce que je veux qu'il arrive, c'est France-Angleterre.
C'est bon, hein, ce qui se passe en Angleterre. Ils ont quand on y pense, OK? Il y a deux ans, c'était le bordel au mois de septembre. Avec Allardyce qui se fait prendre par le journal. Tu te souviens de cette histoire?
Ouais, il se prend de l'argent, c'est ça?
Ouais, il se prenait de l'argent pour du recrutement un peu louche.
Ouais, mais lui, il était louche, lui.
Ouais.
Je pense qu'à Blackburn, il avait déjà des idées louches là, quand il était coach à Blackburn.
Ouais. Déjà, exact. Et quand il avait été choisi pour la sélection, les gens auraient préféré mille fois que ce soit Bilic. Il était à West Ham à ce moment-là.
Ouais, il était à West Ham. Ouais.
Ça cartonnait son truc. Hein. C'était du beau foot. Là, aujourd'hui, à Allardyce, il est probablement sur une plage avec Coco Cognac.
Il n'est pas coach à Everton ou ils l'ont déjà viré?
Je ne sais plus.
Je pense qu'il est parti à Everton.
Sinon, Bilic, il commande la World Cup à la télévision.
À la BBC, il a été nommé la meilleure note. Dans le top 3 de tous les commentateurs, BBC, ITV, tout ça. Là, c'est lui qui a les meilleures notes.
Ils finissent par mettre Southgate par défaut à la tête de cette sélection-là. Avec peu d'expérience, et il a complètement transformé cette sélection. Hein.
C'est fou. Hein?
Il a tout compris. Là. Il a compris tout le côté noir de cette sélection. Tu sais, il a engagé des psychologues pour travailler le mental. C'est fou ce qu'il a fait. À la fin de chaque séance d'entraînement, il y avait une simulation de tir de pénalité avec les joueurs sur la ligne du milieu. Il simulait
la marche, la démarche,
tout. Là. Il l'a connu. Ouais. C'est en quelle année qu'il a connu?
En 96, à l'Euro, je pense. Contre l'Allemagne, il rate son pénalty.
Ouais, c'est lui-même qui avait dit, quand je suis allé rater le pénal, c'était la première fois que je tirais un pénal, dans le fond.
Oui, de sa vie.
C'est incompréhensible.
Ouais.
Ce qu'il fait là, avec l'Angleterre, c'est un chapeau, hein, franchement.
Un sélectionneur ne va pas nécessairement révolutionner tactiquement. Là. Les joueurs, ils savent ce qu'ils font. Si c'est un sélectionneur qui a une idée en place, qu'il le fasse, c'est gérer un peu le jeu, puis gérer l'intensité et gérer le mental. Et t'assurer que...
Ouais, vas-y.
Non, vas-y, continue.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que une sélection comme l'Angleterre n'a pas besoin d'un technicien si fort. T'sais, c'est plus le mental. C'est pas la même chose que, mettons, la sélection de l'Iran qui va chercher Quayrush pour bâtir un plan précis.
Tout à fait.
C'est pas de ça que l'Angleterre a besoin. Là.
Et on dit pas que Southgate et son staff, c'est des deux de pique. Juste que c'est pas Capello, c'est pas Guardiola. T'as pas besoin d'avoir ça nécessairement pour une sélection. Et je pense que tu prends ça en compte. Lui, il fait des bonnes choses. Il met les bons joueurs. Il a pris des bonnes chimies. Il a pas pris un gardien fini en Joe Hart. Il a pris Pickford. C'était un choix important. Les gars, il a utilisé le même 3-4-3 de Man City, entre guillemets, là, si on veut. Kyle Walker, il a continué à l'utiliser comme latéral défenseur, surtout comme défenseur. Trippier, il est excellent. Et tu sais, il s'est basé sur un sort de core Tottenham Hotspur et ça marche bien. Même si Dele Alli n'est pas wow, lui et Kane, ça se trouve quand même. Sterling, même s'il est brouillon, puis il est chiant, puis pas nécessairement, il finit mal, il est important. Lingard, c'est pas wow. Mais quand il est hot, il est intouchable. Mais quand il n'est pas, on ne le voit pas. T'sais, on se dit, il est un peu têtu dans certains choix, mais ça marche pour lui. Puis tant mieux. Tant mieux. Du moment qu'ils sont en quart de finale, je dis, OK, ils ont battu Colombie en pénalty. C'est bon, les gars, le reste, c'est du bonus.
Ouais.
Le reste, du bonus. Mais là, il ne faut pas être triste si vous parlez qu'on a Croatie. Hein, parce que les Croatie sont forts. Là. Il ne faut pas dire, on aurait pu gagner. Oui, vous auriez pu gagner. Un 30 demi-finale, ça gars, fait mal. C'est vrai.
Mais j'ai peur qu'ils soient rendus fatigués. Ça fait plusieurs minutes. Il y a Mandzukic qui est sur le côté. Il joue sur le côté encore. Là,
C'est intéressant, mais ça sera un bon défi. Là. La France-Belgique, c'est le match qui a l'air d'être excitant. Je pense qu'ils vont un peu s'observer, là, mais c'est deux équipes qui vraiment. Voilà, moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que la France sont solides, ils vont être sérieux, ils vont bétonner s'il le faut. La Belgique, honnêtement, tu as littéralement trois ballons d'or potentiel plus Lukaku. Lukaku, il est pas loin d'être ballon d'or potentiel dans pas longtemps. Je parle de Courtois, de Bruyne et Hazard.
Ouais.
C'est du niveau ballon d'or, ça. Donc,
je suis content pour Lukaku parce qu'il y a eu une saison compliquée avec les partisans de Manio. Hein. Il a fallu que Mourinho le défende plusieurs fois.
Exactement. C'est amélioré drastiquement.
C'est pas un Oui, puis il comprend son rôle. Là. Il comprend qu'il n'est pas là. Il a le défaut de son physique. Tout le monde le compare à des gars comme Drogba, puis il voit en lui un buteur de 20-25 buts.
Mais il n'a pas la même technique. Là. Il est beaucoup plus technique qu'on pense, et c'est tout amélioré. Oui, oui, oui. Le Lukaku de Chelsea, là, avec les cheveux longs et les dreads, c'était très différent là, de celui qui a fait un peu le tour pour revenir... Pour venir en Angleterre à Man United, c'est très très différent. Puis honnêtement, il est très important, il est bon. Puis Martinez, là, l'entraîneur de la Belgique, lui, il est très pragmatique. Il échange de joueurs, il essaie avec Carrasco, ça marche. C'est ça. Mais ça, il change Carrasco, il met Chadli, ça marche bien, il continue avec. C'est pas mal, c'est un risque. Et j'aime ce genre de sélectionneur qui se dit, c'est quoi, je vais prendre ce qui marche et je continue avec. Un peu comme Southgate, mais Southgate, il insiste à ne pas faire Rashford titulaire au moins une fois. Il est quand même jeune. Et peut-être il a besoin de lui en fin de match, quand lui, il est frais, puis les autres défenseurs adverses ont les jambes lourdes. Mais moi je dis Belgique-Angleterre, ce qui va arriver, je pense, je voudrais voir France-Angleterre. Parce que la France, je trouve, c'est la meilleure équipe des quatre en termes de collectif individuel. Je pense que les trois autres nations peuvent avoir des choses à... En des arguments contre la France en termes de joueurs individuels, je trouve, parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais
on est d'accord que c'est le premier vrai test de la France, même s'ils ont joué
l'Argentine. Oui, c'est leur gros test. Là. C'est le gros test, mais je pense que ça les arrange que ce soit la Belgique. Mais la Belgique, il y a une certaine folie fofolle. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent défendre aussi bien qu'ils l'ont fait contre le Brésil? Tant mieux, mais je pense que la France va les bombarder comme le Brésil l'a fait. J'ai un doute par rapport à ça. Je ne pense pas que Kanté va se faire aspirer et se faire prendre par des contres. C'est à voir. Maintenant, on sait ce que les coachs vont faire. Là. C'est demi-finale, il n'y a pas de surprise. Même l'écart. On sait ce que tout le monde va faire. C'est question qui va faire l'erreur en premier. C'est mon humble avis.
En tout cas, Laurent Simon doit trouver ça difficile cette année.
C'est dommage qu'il est vraiment être sur le banc, ça, il aurait été content.
Non, c'est une expérience incroyable. C'est l'expérience ultime pour tout professionnel. Là, mais
ça aurait fait trois compétitions internationales de suite pour lui. Ça aurait été bien. Bon, sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté en direct sur le périscope du CanFoot Club @CanFootClub sur Twitter. Et merci pour tout le monde qui nous écoute sur podcast, sur les plateformes de base de diffusion. Vous le trouvez sous les mots-clés CanFootballClub plus, soundcloud.com/CanFootballClub pour trouver la page SoundCloud. Et pour le reste, je répète, CanFootballClub plus. Merci encore à la Fort du Malte pour être le sponsor du CCPP, 100% CanFC, 100% Poutine du Soccer. Et merci encore à notamment Jam Industries qui nous aide aussi avec l'équipement technologique pour aujourd'hui, nos deux jolis microphones. Merci encore à nos patrons patreon.com/CanFootballClub qui nous supportent financièrement pour continuer à faire du contenu, à développer, à essayer d'autres choses et vraiment on essaie. Donc merci beaucoup et merci encore à tous ceux qui interagissent avec nous sur les réseaux sociaux, qui nous lisent les articles sur canfootballclub.com, qui commentent sur la page Facebook, qui lisent notre Instagram, qui interagissent avec les belles photos, etc., etc. Merci encore. Dilton?
Yep.
Bonne soirée, Carayo.
J'ai jamais entendu autant ce mot-là.
Je suis mal poli. Merci encore.
Ciao tout le monde.
Ciao tout le monde. Bonne soirée. Hein. Allez, ciao.